pas pris un peu de coca, ça serait bien.
Ouais, je crois, mais...
Tu veux pas du jus de raisin plutôt ?
Non, du coca, je crois.
Oui. Bon, c'est marrant, vous avez pas l'air très prêt pour commencer à enregistrer là.
Ah, si, mais t'inquiète pas. On cache notre genou.
Ah oui, oui. Vous cachez votre genou ?
Oui. C'est bon, je suis concentré.
Bon allez, il faut qu'on démarre.
Tu sais que si on fait une heure et demie sur le football américain, on sera obligé de faire 5 minutes sur O.J. Simpson, ça va pas être cool. Alors, bah, il était acquitté, voilà.
Voilà. Et les gants étaient trop petits.
Salut.
Alors, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Donnez-moi un E.
E.
Donnez-moi un P.
P.
Donnez-moi un O.
O.
E, P, O.
E, P, O.
E, P, O.
E, P, O.
Ouais, vous m'avez l'air prêt.
Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi, je me fous de la leur.
Bumpy.
Hey, bonjour, 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 bienvenue vous écouter les Patents Podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. L'Égypte a les pyramides, l'Italie la pizza et les États-Unis ont le football américain. Et oui, vu d'Europe, c'est une tradition un peu exotique, mais vu d'Amérique, c'est une religion. EPO a décidé de consacrer ce mois d'octobre à cet étrange sport, en commençant dès aujourd'hui avec un épisode anticipé consacré au football américain avant de parler le 24 octobre prochain d'un certain O.J. Simpson. Si, comme le commun des mortels, vous n'y connaissez rien en football américain, pas de panique, nous non plus. Et pourtant, mes camarades, et moi-même allons tenter de tout vous dire sur ce sport, ou presque, ou du moins de répondre à quelques questions que vous vous posez, comme par exemple c'est quoi un quarterback, ou encore combien gagne une pom-pom girl. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai le plaisir de retrouver, comme toujours, Olivier, Younes et Sarah. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour, Michael. Bonjour. Magnifique. Bravo.
Merci.
Incroyable.
Et en fin d'émission, pour la première fois, une nouvelle rubrique va faire son apparition. Le contrôle antidopage. Et qui s'y colle pour cette fois ?
Eh bien, je crois que ça va être moi.
C'est toi, Olivier. Mmh. Bah oui, oui. Tu prendras l'éprouvette hein, qui est au fond. Je vous ai réservé un petit jingle, vous allez voir, qui est pas mal. Et avant de... avant de marquer le premier touchdown de la partie, on va s'écouter évidemment une petite archive.
Pour que le stade de Wembley et le public londonien férus l'un et l'autre du scientifique football ou du classic rugby acceptent une démonstration de football américain, cette musique militaire, ces majors étaient un jongleur, était au moins nécessaire. En finale du championnat des troupes stationnées en Europe, une équipe américaine venue d'Allemagne rencontre une équipe américaine stationnée en Angleterre. Et entre chaque time de 15 minutes, il y a des attractions. Mais sur sortie de mêlée, un shoot sensationnel d'un garde d'honneur de Heidelberg marque 6 points et soulève l'enthousiasme. Quant aux Aigles qui mènent par 26-7, ils repartent de plus belle. 10, 20, 30, 40 yards. C'est un coup magnifique stoppé par un tenu et ponctué par une nouvelle dent. Et voici le bouquet. Un chien authentique vient prendre part à cette étonnante partie où le sport, la grâce et la loufoquerie se sont confondus dans un cocktail dont les Anglais n'ont pas aimé le goût.
Ah, les Anglais n'ont pas aimé le goût. Hein.
Oui. Sacrée loufoquerie.
C'était un extrait des actualités françaises du 18 décembre 1952.
Et c'est au stade de Wembley.
Et voilà, alors ce qui peut. J'ai choisi cet extrait parce que déjà il me faisait rire.
Bah, là, je sais pas quoi, il y avait un chien à la fin.
Oui, oui, en fait, il y a plein d'animations.
Il y a
plein d'animations parce que tout le monde s'en fout du sport américain en Europe. Voilà,
mais du coup, ils finissent le match avec 5 pingouins en attaque.
Alors pour comprendre le phénomène football américain, on va déjà se pencher un petit peu sur son histoire. C'est bien pour comprendre un phénomène de se pencher un peu sur l'histoire.
Bah ouais. Bah ouais, ouais.
Histoire c'est, avec un grand H.
Avec un grand H.
Oui.
Ouais. Ouais, ouais, bah c'est un mélange de deux sports en fait qu'on connaît bien ici en fait. Ici, je dis en France, hein, donc en Europe aussi. C'est un mélange de rugby.
C'est le squat chez le golf.
La pelote basque.
Et un mélange de golf. Non, c'est un mélange de football, le nôtre. donc le soccer, appelé là-bas outre-Atlantique, et un mélange de rugby. Donc c'est un mix qui vient au fur et à mesure, selon les vieilles institutions américaines que sont les universités, qui commencent à travailler, entre guillemets, le divertissement, le sport, à travers la forme physique, et qui mélange...
Et la loufoquerie.
Et la loufoquerie, surtout. Et qui commence à greffer des règles qui sont inédites, donc pour ces deux sports. Et au fur et à mesure, en affinant avec le temps, naît le football américain.
Ouais, ça va se passer sur la seconde moitié du 19e siècle, en fait, tout ça. Mmh. Et comme disait Younes, ce qui est intéressant, c'est que ça vient vraiment des universités. Et c'est l'entraîneur de l'équipe de Yale qui va vraiment formaliser un peu les règles qu'on connaît encore aujourd'hui.
D'accord.
Oui. Et c'est en 1920 que va naître la National Football League.
La célèbre NFL.
La NFL, officiellement.
Alors c'est vrai que moi, spontanément, j'aurais plutôt tendance à penser que ça vient plus du rugby que du foot.
Oui.
Parce que, ça, bon, à part le nom qu'il a gardé, football, ils n'utilisent quand même pas beaucoup les pieds.
Il y a des phases de jeu au pied qui sont autorisées. Effectivement, les rares phases de jeu que l'on connaît du football US, c'est les transformations après le touchdown. Donc,
comme au rugby.
Ça permet de donner des points additionnels en fait, à un touchdown. Et sinon, effectivement, les phases de jeu sont plutôt rares parce que c'est quand même des grandes prises de risque.
La grande différence avec le rugby, c'est qu'on peut aller vers l'avant. Pour le coup.
Oui, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça, non. Ouais.
Expliquez-moi, du coup, on va parler un petit peu de...
En fait, les phases de jeu en avance sont assez rares parce que, de toute façon, c'est des prises de risque, comme je disais tout à l'heure. Et en fait...
Attendez, parce que
je sors mon encyclopédie de 173 000 pages. Ouais. L'article ZB...
On peut déjà commencer par ça, Olivier. C'est que
vous savez qu'il y a eu un escape game à Paris, là.
Ouais, merci.
Il y en a essayé de comprendre les règles du but.
Pour sortir de la salle, il faut comprendre les règles du football américain. Il y a eu trois morts.
C'est vraiment un enfer de comprendre les règles. Moi, j'ai passé un an.
Dans les grandes lignes.
Intellectuellement, c'est un sport d'élite.
Par rapport au foot, la même chose que le foot, c'est qu'il y a 11 joueurs contre 11 joueurs.
Oui, tout à fait.
Voilà.
C'est peut-être la similitude.
Sauf qu'il y en a beaucoup plus dans la réalité parce qu'ils sont 11 contre 11, ça il faut bien comprendre sur le terrain. Ouais. Mais en fait, tu as différents types d'équipes en fonction du moment de la phase de jeu. Tu as une équipe offensive, tu as une équipe défensive, tu as une équipe je sais pas quoi, et elles tournent en fait tout le temps.
En gros, pour synthétiser grandement, chaque équipe a deux bases. La base, une équipe défensive qui va défendre et une équipe offensive. Donc qui va offenser, qui va attaquer.
Et peut-être
c'est comme au baseball, il y a des phases offensives, des phases défensives.
Tu changes, pas partagé par les mêmes joueurs.
Ce ne sera pas les mêmes joueurs sur le terrain.
Il y a un cap de joueurs à ne pas dépasser au sein des différentes franchises. On va parler de ce mot encore tout à l'heure.
Équipes en fait.
Exactement. Et en fait, c'est 53 joueurs qui sont plafonnés en fait dans les effectifs. Et dedans, il y a des spécialistes de différentes phases de jeu selon les entraîneurs. Mais effectivement, si on synthétise rapidement, comme dit Olivier, c'est deux équipes en fait qui sont à l'intérieur de l'effectif. Des spécialistes de l'attaque, des spécialistes de la défense.
Je
voulais juste dire Bermuda, mais parce que je me plaçais.
Peut-être pour que les gens aient le cadre général, comment se passe un match. Mm-hmm. Un match de football américain, en fait, c'est 4 quarts temps de 15 minutes chacun. Mm-hmm. Sauf qu'il faut bien comprendre que, pour l'avoir vécu en vrai, en live, pendant mon année, j'ai passé une année à l'étranger, en Californie, donc je suis allée voir un match de football américain. Je pense que je n'ai jamais vécu un moment aussi ennuyant de toute ma vie.
Ça dure 6 heures.
C'est vrai ?
C'est l'enfer. En fait, chaque phase d'un quart d'heure dure en fait une heure parce que tu as tout le temps des arrêts et les phases de jeu sont tellement courtes que vraiment genre tu fais tomber ton foulard par terre, le temps de ramasser, en fait t'as raté l'action quoi. Ouais. Et donc c'est un truc qui te demande d'être hyper attentif et en fait contrairement au foot ou au rugby, enfin au soccer ou au rugby, c'est des phases de jeu extrêmement courtes et on n'y est pas du tout habitué
mais c'est comme au baseball en fait.
Ouais, il y a vraiment un point commun dans le sport américain, c'est qu'il est vraiment axé sur les phases arrêtées parce que c'est très tactique.
C'est extrêmement tactique.
Et en fait, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. C'est un appel d'air en fait aux annonceurs et aux spectacles.
Oui,
parce
bien sûr.
On parle de show à l'américaine.
Mais les règles, à la base, le principe n'est pas si difficile à comprendre. C'est-à-dire que tu as un terrain qui est délimité en yards.
Il est gradué en yards.
Ou en verges.
Oui.
Voilà, 120 verges. C'est le nom de la sextape de mon ex. voilà, celle-là, je voulais absolument la placer, je suis désolé.
De Diaz en Diaz.
Donc voilà, le but, c'est qu'il y a une équipe qui attaque toujours contre l'autre équipe qui défend. Ouais. Okay, le but étant d'avancer sur le terrain le plus possible jusqu'à la fin de la zone. Exactement comme au rugby, quand on marque un essai, on marque un touchdown quand on est dans la zone finale de l'équipe adverse.
Non, je t'arrête. On marque un touchdown.
Mais oui, Michael. On marque un touchdown. Ça y est, je l'ai placé.
Voilà. Donc le but est simple.
Ça se fait à peu près comme au rugby.
Il faut. On a l'équipe qui attaque à 4 tentatives. Donc l'équipe qui attaque a toujours le ballon, ce qui est différent au rugby, parce qu'au rugby il n'y a pas d'équipe défensive.
Ce qui rend la 4e tentative assez palpitante à chaque fois.
Pour parcourir 10 yards.
Sachant que 1 yard égale 0,914 mètres.
Très bien.
C'est quasiment pareil en fait.
Ouais, c'est quasiment pareil.
Oui.
Voilà, donc une fois.
S'ils n'arrivent pas,
c'est 4 tentatives, l'équipe qui attaque à parcourir ces 10 yards, ils ont l'équipe qui a défendu, ils inversent. Donc l'équipe qui attaque défend et l'équipe qui défend attaque tout simplement.
Exactement. Voilà. Et donc c'est là aussi, c'est là qu'en fait, c'est long parce que tu as tout le changement d'équipe qui se fait.
Oui.
Et en fait, ce truc-là, il se fait même, pour l'avoir vu, entre chaque avancée. Parce qu'en fonction de combien tu as avancé, etc., tu ne remets pas les mêmes joueurs.
Ouais.
Ce qui est assez marrant, c'est que c'est aujourd'hui un sport qui est presque. Ils disent que c'est un peu un échiquier humain
oui.
où en fait tu dois savoir exactement quel joueur tu places où pour pouvoir avancer.
Les prises individuelles et les initiatives que l'on connaît nous dans le football sont assez rares en fait.
C'est très tactique comme
parce
jeu.
Qu'on a un rôle bien assigné et en fait quand on sort de la feuille de match pour le coup littéralement, c'est-à-dire qu'on sort de sa mission, on met en péril en fait toute la stratégie et la tactique. Et pour le coup, en fait, le rôle de l'entraîneur est encore plus en avant dans ce sport. En fait, c'est comme si c'était deux mecs qui s'affrontaient en fait à travers une idéologie, une philosophie de jeu, quoi.
Et donc tout à l'heure, on parlait de l'avant. En fait, tu peux pas faire plus d'une passe en avant par phase de jeu, donc c'est quand même limité. Et donc de l'autre côté, la défense, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a plusieurs choix. C'est un peu comme au rugby finalement. Soit elle plaque le porteur du ballon, soit elle essaye d'intercepter le ballon quand il est en l'air.
Après, pour pas décourager les gens qui le connaissent de loin ce sport et qui ont le sentiment qu'ils vont tout simplement se faire chier, parce que c'est un peu la réalité en fait quand on regarde ce sport, les phases de jeu quand elles sont en pleine action sont assez spectaculaires.
Oui.
C'est
très millimétré quoi.
Voilà, et c'est quand même beau à voir. Après, effectivement, je préfère regarder les highlights, donc les temps forts du sport plutôt que de le regarder en direct parce que c'est franchement, c'est un peu pénible.
Alors, sur cet échiquier, comme tu le disais, Sarah, il y a une pièce maîtresse quand même qui s'appelle le quarterback. Alors, on l'entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est?
C'est le beau gosse.
C'est le beau gosse de l'équipe.
C'est la star, c'est le cerveau, c'est le maestro, c'est Zinedine Zidane.
C'est la star du lycée.
C'est
quoi.
Le Zinedine Zidane de l'équipe. C'est celui qui organise le jeu.
Le jeu d'attaque.
Alors il est toujours utilisé en phase offensive.
Ouais.
C'est celui qui organise le jeu. C'est le premier joueur à toucher la balle quand on fait un engagement. En gros, enfin, on va appeler ça comme ça pour synthétiser. Désolé pour les puristes. Il y a un joueur qui touche la balle, qui prend le ballon, qui tout de suite le donne derrière lui au quarterback, qui tout de suite va diriger le jeu en fonction de la stratégie adoptée par l'équipe. Voilà, pour parcourir. Voilà.
Oui, en gros, c'est lui qui fait la passe, quoi.
Quand
il choisit de faire une passe en avant, c'est lui. Ce qu'on voit souvent, en fait, justement, dans les meilleurs.
Donc, c'est souvent pas lui qui marque. Lui, il envoie le ballon à celui qui est censé la réceptionner pour marquer.
Tout à fait.
Oui, si vous avez déjà vu un film, on imagine très bien le quarterback prendre le ballon au ralenti, envoyer la balle comme ça. Le ballon arrive derrière le petit gars qui va le recevoir. Touchdown!
Dans la zone de transformation, tout à fait. Ouais.
Alors, oui, t'as encore quelque chose à ajouter, ça?
Oui, je voulais aussi peut-être qu'on parle, je sais pas si tu veux en parler là, mais il y a le quarterback et il y a aussi celui qu'on appelle le running back.
Alors, on en parlera
plus tard.
Dans le prochain épisode, puisque la personne dont on va parler.
Non, mais c'était pour savoir si on introduisait dès maintenant ce rôle.
On va se garder ça pour la semaine prochaine. On va peut-être
Dictateur.
On va peut-être parler un petit peu de la popularité ce sport aux États-Unis parce que c'est presque une religion. Est-ce que c'est le sport le plus populaire aux États-Unis?
Largement, de loin, largement.
Oui.
Donc ça c'est fait.
Beaucoup plus que tous les autres sports.
Oui, c'est le sport que l'on pratique à l'université ou que l'on suit excessivement à l'université. Donc c'est un sport universitaire qui est télédiffusé.
Il faut rappeler l'importance aux États-Unis du sport universitaire qui n'est pas du tout la même chose en France, qui n'existe pas ou presque.
C'est-à-dire
que le sport universitaire,
c'est pas la même culture.
Il y a des millions aussi dès le début, dès les compétitions universitaires. D'ailleurs, quand on va parler d'OG, on va en reparler aussi. Il y a des millions de spectateurs déjà qui suivent les compétitions universitaires.
Au cœur des stades universitaires sont l'équivalent de ce que nous, on a du mal à faire en France avec notre football, en termes de population qui se déplace au stade.
C'est vraiment une ambiance familiale, c'est vraiment les familles qui se déplacent, c'est vraiment ils arrivent 3h, 4h avant le match pour boire des bières, jouer aux cartes et faire les touches pipi. C'est vraiment quelque chose de très convivial.
Oui, non, de
dès,
loin.
Dès le football universitaire.
Bon, ça n'arrive pas à l'équivalent de notre pétanque nationale, mais très populaire.
Big up à Julio. Est-ce que vous avez des chiffres éventuellement sur l'affluence dans les stades ou justement par rapport à ça
Moi, j'ai des chiffres sur les finales. Moi, j'ai un comparatif sur le Super Bowl dont on va parler un tout petit peu plus tard.
Mais c'est la finale de la Ligue.
On est quand même sur environ 110 millions en moyenne de spectateurs pour la finale.
De téléspectateurs.
Pour la finale du championnat américain, donc le Super Bowl. On est presque au même niveau sur l'autre match de football américain, le match spécial de Thanksgiving.
Le Rose Bowl, c'est ça
le Rose Bowl.
Universitaire,
ouais.
C'est le Rose Bowl.
À titre de comparaison, ouais, on est à 40 millions de téléspectateurs pour le baseball, qui est le deuxième sport national. Ouais. Donc c'est quand même le double.
Très en deçà.
Même voire le triple.
Et on atteint presque le milliard à travers le monde de téléspectateurs hors sol américain sur l'événement. Qui draine aussi un autre public, celui qui est intéressé par les moments des temps morts, en fait, entre les cartons. Parce que
les grands shows.
Les publicités, les grandes publicitaires investissent et les grandes marques investissent énormément d'argent. On chiffre ça en milliards de dollars. Oui. Sur ces instants qui sont extrêmement suivis à la télévision.
Moi, je l'ai le chiffre. C'est, je crois, 30 millions, c'est ça ?
L'an passé, c'était 50 millions d'investissements pour les annonceurs.
Ouais. C'est 30 secondes à 5 millions de dollars.
Ouais,
ça fait 166 667 dollars la seconde de publicité.
Ouais, c'est pas donné. Et de toute manière, la NFL, c'est la ligue la plus riche du monde, plus que la ligue, enfin que le foot.
C'est un état dans l'état.
C'est surpuissant. Je crois que c'est 10 milliards de chiffre d'affaires par an. Enfin, c'est absolument incroyable.
Alors moi, par rapport à ça, on continue
c'est
à parler.
C'est deux fois la première ligue pour comparaison, la première ligue de football d'Angleterre, qui est extrêmement les chiffres, c'est 10 milliards de dollars, c'est deux fois la première ligue en termes de chiffre d'affaires. Ça vous place sur une carte.
Alors on va continuer à parler pognon parce que c'est ma passion.
Parlons fric.
Petite question, combien ça gagne un joueur de football américain?
13 euros. Par contre, ça roule.
C'est marrant parce que
blé,
c'est très encadré. En fait, ils sont très bien. Ils ont une sorte de syndicat, donc ils sont bien défendus sur ça. Et donc il y a une vraie grille de salaire en fonction du nombre de saisons que tu as faites. Quand on est à zéro saison, ta première saison, tu es à 285 000 dollars minimum.
Tu as des tickets restaurants quand même.
Non. Tu as des tickets restaurants, mais par contre, tu n'as pas de RTT.
Oui.
Quand tu es à 10 ans.
Et tu as les fameux vacancy checks aux États-Unis.
Et au bout de plus de 10 ans de carrière, tu montes à 820 000 dollars. Encore une fois, c'est un minimum. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont à plusieurs millions de dollars par an. Mais c'est quand même des chiffres impressionnants. J'aimerais bien savoir combien gagne un joueur de Ligue 1 de division.
C'est quelque chose qui inspire peut-être les ligues étrangères.
Tavares, bien sûr, mais
on appelle ça le salary cap et c'est effectivement
le salary cap, c'est pour plafonner les salaires la plupart du temps.
C'est aussi le cas, ça garantit un minimum et c'est aussi pour les plafonner et pour
ils
les encadrer.
Ils sont plafonnés les salaires de footballeurs américains?
Non,
ça m'étonnerait.
Non, mais c'est pour encadrer la majorité en fait. C'est pour encadrer la majorité des salaires parce qu'en fait ça permet justement d'équilibrer les franchises entre elles. On va en parler tout à l'heure parce qu'on va expliquer ce qu'est un système de franchise et la différence de ce que nous on connaît pas en fait ici en Europe. C'est tout simplement des équipes qui ne peuvent pas être reléguées.
Oui, ça je sais, mais il y a qu'une division.
Il y a un risque économique qui est minimisé en fait grâce à ça et ce qui permet justement de pouvoir recruter des joueurs et de pouvoir investir sur son équipe.
Je crois, juste pour continuer un petit peu sur les salaires, de mémoire, je crois que dans le classement des sportifs les plus payés au monde, les premiers footballeurs US
9e.
arrivent en 9e et 10e position.
Après ce classement, c'est le classement c'est pas très bien fait parce que footballeur le mieux payé, footballeur américain le mieux payé, je crois qu'il fait par an quelque chose comme 27 ou 28 millions à vérifier encore. C'est moins qu'un joueur de baseball. Mais après, il y a aussi tout ce qui est bonus, publicité, etc., qui revient encore.
Non, mais on parle que de salaire.
Le sportif le mieux payé au monde, celui qui a le plus d'argent, c'est le boxeur Floyd Mayweather. Voilà, qui a le plus d'argent, juste devant Lionel Messi.
D'accord. Voilà.
D'accord, mais
pour répondre à ta question, Neymar en Ligue 1, c'est le cinquième.
Est-ce qu'on parle de salaire pur ?
Non, là, on est sur l'accumulation.
On parle du brut, du net, toutes charges comprises.
Oui.
Tu inclus les restaurant tickets ?
Bien sûr. Et j'ai vérifié. Il a fait sa visite médicale, il est à jour.
Alors, on va parler un petit peu de ce championnat de football américain.
Parce que si les règles du jeu sont compliquées, le championnat, lui aussi, est tout aussi compliqué à comprendre pour quelqu'un qui vit en Europe.
Le championnat qui s'appelle, enfin, la ligue qui s'appelle la NFL, National Football League.
Qui est aujourd'hui la fusion de deux ligues. Au début, dans les années 60, en fait, la NFL, qui était la première ligue à être créée, a commencé à être concurrencée par une autre ligue, l'American Football League. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en termes de profit, c'était pas très bien d'avoir deux ligues. Ça désintéressait les gens étaient un peu perdus. Donc, ils ont décidé en 66 de fusionner. Alors, ça va fusionner réellement en 70, mais en 70, il y a pour la première fois ce qu'on va appeler le Super Bowl, qui est en fait une finale entre les deux champions des deux ligues.
Ouais,
et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. Même si c'est qu'une seule ligue, en fait, les matchs un peu de poule, si on veut dire, enfin, on va revenir dessus, se passent dans chaque conférence, voilà, qui sont les deux anciennes ligues.
D'accord.
Donc, ça reste quand même toujours, finalement, une finale entre
ces
les deux
conférences,
ligues.
En fait, couvrent le même espace de territoire, en fait. On a Est, Ouest, enfin, les points cardinaux qui sont représentés par des villes. Alors des fois, ça n'a pas tout à fait un rapport géographique parce qu'on retrouve en fait, par exemple, certaines équipes qui sont à l'Est physiquement se retrouver dans la Ligue du Sud d'une conférence.
Alors en fait, non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que les deux conférences, c'est pas du tout une division géographique.
Non.
Voilà,
non.
Par exemple, vous avez l'équipe des Jets de New York qui est dans une conférence et les Giants de New York sont dans l'autre conférence.
Exactement. Voilà. On a la National League et l'American League. Voilà. C'est deux ligues qui se préparent la saison régulière en fait.
Chacune de ces deux conférences est divisée effectivement
en 4 points cardinaux.
Exactement. Ouais. En sud-est-ouest.
Et elles sont constituées, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si Sarah, tu peux me confirmer, elles sont de 16 équipes chacune.
Tout à fait.
Oui, exactement.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a 32.
Bravo.
Attendez, je sors la
calculatrice. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y a 16 équipes. Par contre, chaque équipe va jouer 16 matchs.
Oui, non, il y a 16 équipes.
Et il y a 16 équipes aussi, d'accord.
Il y a 32 équipes.
Mais toutes les équipes ne se rencontrent pas.
Oui, c'est ça.
Oui, non, après, il y a un savant calcul. Alors là, encore une fois, c'est trop compliqué pour l'installer ici dans l'émission. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une saison régulière et il y a les fameux play-offs, qui est un tournoi.
Déjà, la saison, il me semble que la saison est très courte. Est-ce que quelqu'un peut me dire à peu près les dates
C'est très court. 17 semaines.
17 semaines.
Les 16 matchs sont répartis sur 17 semaines, sachant qu'il y a une semaine où l'équipe qui joue pas est en vacances. Ouais, youhou,
Ils peuvent profiter des vacances.
C'est bien les vacances.
Les vacances.
Oui, comment tu fais les vacances?
Ça commence fin août.
Ouais.
Et ça finit, le Super Bowl, c'est
fin janvier, début février.
Février plutôt.
Début février, ouais.
Avant, c'était fin janvier, c'est pour ça.
En fait, pour comprendre, il y a donc dans chaque conférence, il y a des matchs un peu pour faire un classement. On va dire des équipes. Et ensuite, tu vas avoir un play-off qui va avoir 12 équipes, donc 6 par conférence. Mm-hmm. Donc, ça va être à chaque fois les 4 champions de chaque conférence et les 2 meilleures équipes non championnes. Alors, je ne sais plus très bien comment ils calculent les points, etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu bizarre parce que c'est des play-offs à élimination directe. Mais en fait, ils restent chacun dans leur conférence.
Ils ne sont pas encore mélangés, les chapeaux, il n'y a pas encore de mélange de conférences, sauf que
c'est des éliminations directes pour arriver au Super Bowl.
En NBA, ça se passe aussi comme ça. C'est-à-dire que les playoffs ont lieu conférence Est, conférence Ouest, et la finale, c'est entre le gagnant et la conférence. C'est pareil, c'est la même chose. L'avantage du football américain, que le football américain sur les autres sports US, c'est que la finale, et justement, les matchs de playoffs se jouent en un seul match.
Oui, il n'y a pas d'aller-retour.
Voilà. Alors qu'il y a des matchs en série sur les autres sports, au meilleur des 5 matchs ou des 7 matchs.
Il faut avouer qu'il serait difficile de faire plusieurs matchs parce qu'il y a peu de matchs aussi en saison parce que le sport est extrêmement violent. Peut-être qu'on pourra en parler.
Ouais.
Que physiquement laisse énormément. Il laisse énormément de traces sur les organismes. Il commence un peu à en parler et la Ligue a accepté de négocier avec le syndicat des joueurs une somme qui est une belle somme rondelette.
700 millions de dollars, quelque chose comme
ça. Voilà, pour pouvoir indemniser les entre guillemets les rescapés des anciennes saisons.
Parce que c'est un scandale.
Il y a de ça parce qu'il y a eu un procès à l'époque.
Il y a eu un procès médiatisé.
On se rend compte que les joueurs, puisqu'on en parle là, ont des traumatismes crâniens. Il y a eu des autopsies réalisées sur plus de 200 joueurs, sans professionnels, sans non-professionnels. Et on se rend compte que sur quasiment 99% des cas, ils ont une dégénérescence cérébrale chronique qui est liée au choc sur la tête. Et plus ils sont pros, plus c'est important.
Bien sûr, ils ont fait une étude sur les cerveaux des joueurs décédés et ils se sont rendu compte que ça équivalait au cerveau de Samir Nasri. Donc ils ont dit
ah non, c'est pas joli ce que tu viens de faire.
C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais,
solidarisons.
Pas du tout, Mickaël, pas du tout.
Alors, non,
que ça ressemblait que les cerveaux des joueurs décédés étaient des cerveaux âgés de 80 ans atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est bien si le
voir
choc
que
était...
la moyenne.
D'autant plus que la Ligue a essayé d'étouffer l'affaire un petit peu, en tout cas en disant mais non, ça va.
C'est vrai que c'est sale.
Voilà.
Ils ont quand même les vacances chèques, ça,
ouais, ça va. Ouais, ils sont bien payés.
Ils ont quand même fait poursuivre par 4500 anciens joueurs, donc ils ont fini par faire un petit chèque pour faire tomber tout ça.
Ça provoque majoritairement des commotions cérébrales, mais aussi une maladie dont on a déjà parlé.
La maladie de Charcot.
La maladie de Charcot.
Et puis même de la démence, de la dépression.
Et la suicide.
Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui se sont suicidés. Enfin, c'est assez triste.
Alors, on parle peu de dopage, c'est assez tabou, mais en réalité, c'est extrêmement présent parce que c'est aussi une façon de supporter la douleur et de pouvoir aller au choc quand on a subi un KO. En général, on passe en mode dépression, les boxeurs connaissent ça. Et pour aller de l'avant, bah, souvent, on fait appel à des produits dopants.
Ouais.
Effectivement, la moyenne d'âge des gens qui décèdent après ce sport est vraiment très jeune. Donc, ça ressemble beaucoup au rugby aussi.
Hein. Ouais, tout à fait. Et ça peut aller très loin parce que certains anciens joueurs de football américain tuent leur femme. On en parlera la semaine prochaine. Alors, évidemment.
Leur ex-femme, ça va, exagère pas.
Alors, on va parler un tout petit peu du Super Bowl. Hein.
Ouais.
On va
déjà parler.
Ouais.
Le Super Bowl, qui est la finale du championnat NFL.
Yeah.
Voilà. Cette année, ce sera pour ceux qui veulent voir ça avec nous, on lance une invitation. Ce sera le 3 février 2019.
Vous regardez de temps en temps le Super Bowl, ça vous arrive?
Ça m'est arrivé trois fois.
Jamais.
Bah, ça m'est arrivé deux fois.
Moi, enfin, je l'ai regardé à la télé quand j'étais aux États-Unis parce que voilà.
Tout le monde l'a regardé, quoi.
Parce que tout le monde l'a regardé.
Non, moi, je vais sur.
Pas l'effort de faire un réveil à 4h du matin, à 2h du matin.
Non,
c'est un peu dur. Moi, je l'ai regardé non plus.
Si tu veux aller sur place, je regardais un peu les prix des billets. Donc le minimum c'est $850 en général.
D'accord, ce qui est pas mal. Et je pense qu'il faut s'y prendre tôt, j'imagine.
Et je pense qu'il faut s'y prendre tôt et t'en es très vite à plusieurs milliers de dollars.
Oui, c'est accessible. 5 et 10 000, facile.
C'est plus cher que d'aller voir le foot, hein, que d'avoir une finale de Coupe du Monde.
C'est plus cher que Al Pacino au théâtre à Paris là.
Oui, c'est ça. Alors, pardon, excusez-moi. Je sais plus où j'en suis. Le prix des billets, d'accord. Qui a gagné d'ailleurs l'année dernière le Super Bowl?
Les Patriots.
C'est les
de la Nouvelle-Angleterre.
C'est vrai, c'est les Patriots qui sont déjà pas mal.
Tom Brady qui est encore une superstar.
C'est ceux qui
américain.
Qui est le joueur? C'est lui le joueur le plus payé, il me semble.
Bah en fait non.
Ah bon?
Non.
C'est Lionel Messi.
C'est
Lionel Messi. Pour ne rien vous cacher, j'avais écrit le joueur le mieux payé. J'étais très fier d'avoir trouvé l'info et je l'ai perdu.
Voilà. Alors, pour info, la finale du Super Bowl l'année dernière a été un petit peu moins regardée que les années précédentes à cause de l'affaire des joueurs noirs.
Il y a eu un mouvement qui était un mouvement de contestation. Qui était avec comme objectif, en fait, excusez-moi, de dénoncer les violences policières que les Noirs subissaient en fait dans les rues américaines.
Ouais.
Donc ces différentes bavures qui sont des bavures hein, de notre point de vue et qui, de point de vue de la police des États-Unis, notamment la police de Los Angeles, sont des actes de légitime défense.
Mmh, bien sûr.
Et ben voilà, ça représente en fait un mouvement qui nuit un petit peu à la popularité du sport parce que effectivement, c'est suivi aussi beaucoup par la population noire américaine.
Le paradoxe, non, c'est surtout suivi par la population. Blanche.
Non, j'ai dit aussi.
Oui, non, mais c'est surtout suivi par la population blanche qui s'est justement désolidarisée. Qu'à moi, regarder Super Bowl, c'est con parce que c'était une des plus belles finales l'année dernière de Super Bowl qu'il y a jamais eu. Apparemment, c'était incroyable. Moi, je l'ai loupé pour le coup.
Ça s'est joué aux prolongations.
Ouais, et puis Trio et Bernard Lavillier à la mi-temps. je veux dire, c'était vraiment chouette. Hein.
Putain, Michel Fugain, c'était quelque chose. Hein.
C'est ce que j'allais dire quand même. Le meilleur moment, le meilleur moment, c'est le spectacle de mi-temps.
Voilà, la mi-temps, il faut
avec
en parler.
Avec Katy Perry, Madonna, Beyoncé, Justin Timberlake.
C'est-à-dire que les artistes
qui montrent son sein.
Ah oui. Non seulement on juge les équipes, non seulement on juge le spectacle, mais on juge le spectacle aussi avec les artistes. Et chaque artiste a beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre.
C'est une grosse pression.
De leur prestation à la mi-temps.
Ah oui, c'est vrai.
Dire que Bernard Lavillier, je peux te dire qu'il a cartonné. Hein,
c'est Michael Jackson qui avait lancé un petit peu la mode des gros lives.
En 93, tout à fait.
Ouais. Parce qu'avant, c'était.
92, mais peut-être que c'était
93. 92-93, la saison 92-93. En fait, c'est toujours un peu. C'est commence en 92 et comme c'est en janvier-février.
Ça se termine en 93.
Oui, c'est lui qui a lancé cette mode des gros artistes.
Effectivement, parce qu'il me semble qu'avant, c'était une fanfare.
Ouais, c'était les enfants à la croix de bois.
Il y a des majorettes.
Des majorettes.
Des majorettes et une fanfare.
C'était chouette. Alors, on va parler.
À propos de fanfare.
On va parler finalement d'un phénomène qu'on ne peut pas occulter quand on parle de sport américain. C'est ceci. Écoutez.
Complément indispensable. indispensable d'une équipe de football américain, les Pom-Pom Girls ou Cheerleaders. Elles sont les supporters numéro 1 de l'équipe, spécialistes de danse et encouragement en tout genre. En attendant de s'exprimer sur le bord d'un terrain, les Pom-Pom des pionniers de Touraine s'entraînent à la rotonde à Tours et encouragent leurs vedettes qui suent sur les bancs de musculation.
Ouais.
Et oui, les pom-pom girls, hein, comme on les appelle. Hein.
Oui,
cheerleaders en VO.
C'est marrant parce que. Vas-y, je t'en prie, oui.
Non, petite question, mais combien ça gagne? Parce qu'on a parlé un peu du salaire des footballeurs américains, mais.
Une fortune.
Alors, les cheerleaders, non, les pom-pom girls, elles sont très mal payées, contrairement à leurs acolytes mâles. Pourtant, elles font partie de l'équipe. Hein. Et résultat, je ne vais plus trouver ici. Donc, elles sont payées à peu près 125. Elles étaient payées à peu près 125 dollars par match. Parce qu'en fait, elles ne sont pas salariées de leur équipe. Elles sont considérées comme des travailleuses indépendantes.
La misère.
Ce qui permet de les traiter comme rien. Ouais, et ouais. En 2015, il y a eu plusieurs équipes, 5 équipes de Pom-Pom Girls qui ont lancé une action en justice justement pour avoir un salaire minimum. Et seul l'État de la Californie, à cette époque-là, a accepté de leur donner un salaire, un vrai statut d'employé pour qu'elles gagnent un peu mieux leur vie quand même.
Donc les Riders d'Oakland, j'imagine, c'est eux, non?
Tout à fait.
Oh, en Californie, il y en a plus d'une. Peut-être oui, il y en a plus d'une. Ouais.
Oui, t'as raison. Ouais.
Donc oui, ce phénomène de cheerleader qui est un phénomène qui est
purement américain, ça c'est un truc.
Qui est purement américain, mais qui a sa place autant que les joueurs. Enfin, ils ont autant leur place dans un match que les joueurs.
En tout cas, dans l'imaginaire collectif, voilà. Surtout le nôtre.
D'ailleurs, à la base,
imagine mal un sport américain sans les pom-pom girls.
C'est pratiqué à l'origine que par des hommes.
Oui, c'est ça, c'est intéressant.
C'est vrai. Tard,
à la fin du 19e siècle, c'est que des mecs.
Ah ouais. Que des mecs. C'est parce que pourquoi? C'est parce que les spectateurs qui se battaient avec les équipes ou avec les propres spectateurs.
C'était pour les calmer un peu.
Voilà, c'était pour les calmer.
On criait des slogans.
Allez vite, on est trop cool, tout ça. Et c'est qu'en 1923 que ça a été ouvert aux femmes. Et en 1960 que ça a été considéré comme plutôt féminin. Et alors moi j'ai une liste, si vous voulez, d'anciens ou d'anciennes pop-up girls. Ouais. Donc je vais vous la dire quand même. Fergie, Madonna, Cameron Diaz, Halle Berry, Sandra Bullock, Meryl Streep et Kirk Douglas. Véridique.
Mais voilà. Alors, non, mais
il a 102 ans, donc c'est pas étonnant qu'il fait partie des premiers. Quoi.
Oui, il a la moitié de ton âge.
Ce qui est important à dire aussi par rapport à leur revendication salariale, c'est que c'est pas que des filles qui agitent des bonbons. Non. Aujourd'hui, c'est des danseuses, des acrobates, oui, elles font des trucs ultra impressionnants.
C'est presque une performance artistique et physique hors du commun.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle des all-stars, c'est-à-dire que c'est des équipes de pop-up girls qui ne sont même pas affiliées à une équipe, mais qui sont là juste pour faire les concours de pop-up girls, etc. C'est en dehors du football américain, il y a une existence à part entière.
Il y a une compétition dans
la compétition. Et du coup, elles gagnent plus, j'imagine.
Je pense qu'elles doivent mieux payer que celles dans l'équipe.
Sauf que du coup, on pense qu'il y a une amélioration. Donc maintenant, elles gagnent à peu près, grâce à leur procès gagné, elles vont gagner à peu près un peu plus de 3 000 $ dans l'année. Pour rappel, une mascotte. Que quand même, Jackie l'ours là qui fait le tour du terrain en faisant « Ouais, hola !» machin, il gagne 27 000. Pas dollars, euros, ça c'est en euros. Donc voilà,
à l'année.
Oui, c'est un salaire, L'égalité homme-femme a encore du chemin.
Et surtout, je crois
que. Peut-être que dans la mascotte, c'est une femme.
C'est vrai,
on sait pas. En plus, je crois que l'activité de Pom-Girl est très encadrée. Il me semble qu'elles n'ont pas le droit de parler, de rentrer en contact avec les joueurs.
Mais c'est l'enfer pour elle. Il y a aussi un délit de toute la masse, l'indice de masse corporelle qui est ultra surveillé. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Non, et puis je crois qu'il y a eu aussi un peu des problèmes. Il y a eu aussi un peu des problèmes dans certaines équipes. Justement, c'est ce que tu dis de relations, de propos inappropriés.
Il y a un cas, je ne sais plus lequel exactement, d'une nana dont on a reproché qu'elle dînait dans le même restaurant qu'un joueur.
À la même table ou
pas le droit. Non, dans le même restaurant qu'un joueur.
Ah ouais, d'accord.
Ça va jusque-là. Bref, c'est le moment de notre petite chronique conclusive. Je vous ai préparé un petit jingle et vous me connaissez. Bon, c'est toujours de bon goût.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Vous l'aimez, mon petit jingle?
Il est parfait.
En fait, j'arrête.
La voix de Marcel.
Voilà, au revoir, Mickaël. Bon courage pour la suite. J'espère que ton podcast va.
C'est pas facile de passer après ça. Alors, vous avez reconnu, effectivement.
Bien sûr.
Merci.
Non, je parle du mec qui pisse.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Moi, je ne reconnais qu'au goût. Alors,
ancienne, Olivier.
Alors, moi, je vais vous parler de ce contrôle antidopage d'une équipe. On parle beaucoup de l'équipe de rugby de Clermont. On parle beaucoup du Stade Rennais. On parle beaucoup de Richard Gasquet ou de Raymond Poulidor. Je vais vous parler d'une autre équipe de losers un petit peu incroyablement rentrée dans la légende qui s'appelle les Buffalo Bills. D'ailleurs, hasard, les Buffalo Bills, qui est l'équipe historique de O.J. Simpson.
Ah, dont on va parler, on parle d'O.J. Simpson la semaine 24.
La période dont je vous parle, O.J. Simpson n'est plus joueur des Buffalo Bills. Ça se passe entre les années 80, dans les années 90, entre 90 et 94. Les Buffalo Bills est l'équipe qui a le plus été de suite en finale du Super Bowl. 4 fois de suite, c'est un record. Une équipe magnifique, un jeu chatoyant. Les Buffalo Bills arrivent pour leur première finale le 27 janvier 91 contre les Giants de New York. C'est incroyable, cette équipe, elle gagne 13 matchs sur 16
en saison régulière.
Ouais. Elles viennent de mettre 51-3, bim, c'est sale, contre Oakland. Ils sont là, c'est vraiment la meilleure équipe. Ils ont un défenseur incroyable qui s'appelle Bruce Smith. Ils ont le quarterback très beau gosse qui s'appelle Jim Kelly. Jim Kelly qui, à la base, ne voulait pas aller dans cette équipe. C'est le premier choix de draft, ça, on n'a pas expliqué, on ne va pas expliquer, on n'a pas le temps.
On en parlera peut-être.
Pourtant, c'est sympa. Buffalo, c'est une belle ville, hein. C'est à côté du lac Carrier. Ça fait 260 000 habitants. Et en plus, il y a un super zoo avec des gorilles et des ours blancs.
Alors, Buffalo, qui est quand même connu à travers le monde pour sa magnifique chaîne de restaurants, Buffalo Grill.
J'y étais encore hier.
Oui. La salade d'accueil. C'est magnifique.
Il y a un excellent billet de Culture 2000 sur Buffalo Bill si vous voulez, l'écouter.
D'accord.
Très bien. On ne manquera pas. Les Buffalo Bill s'entraînaient par un entraîneur. Et là, je vous donne vous à cœur joie qui s'appelle Marc Lévy, entraîneur légendaire qui prône ce qu'on appelle la tactique du no huddles, c'est-à-dire qu'en attaque, en phase d'attaque, on gagne pas de temps justement, on essaye de jamais se regrouper, donc de toujours que ça parte dans tous les sens pour gagner le moins de temps possible, pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour les défenseurs adverses d'anticiper les mouvements de l'adversaire et de ne pas faire de changements pendant les temps morts, etc.
L'idée c'est de jouer vite.
Pour écraser le blitzkrieg. Donc cette équipe arrive en finale le 27 janvier 91 contre les Giants de New York qui vont évidemment les battre pour la première fois 20-19 après.
Qui va gagner? Les Giants.
Qui vont gagner 20-19, un coup de pied raté à la dernière seconde.
Frustration.
Grosse surprise pour cette équipe chatoyante qui arrive en finale, et on se dit c'est très rare qu'une équipe arrive en plus deux fois de suite en finale du Super Bowl. Ça arrive très très rarement.
D'où l'intérêt du Super Bowl, ça se joue en un match, alors effectivement c'est une finale, une vraie.
Casse la tienne, ce n'est pas fini. Un an après, les revoilà en finale du Super Bowl 92, le 26 janvier. C'est pour ça que avant, c'était fin janvier, le Super Bowl. Face à, cette fois-ci, les Redskins de Washington. Yes. Ultra favori encore une fois. Ils ont fait encore une grosse saison. Ils gardent l'ossature. Hein,
les Bills,
4 ans,
toujours favoris.
Toujours les Bills favoris. Toujours la même ossature. Toujours Bruce Smith. Et il y a un joueur...
Bruce Willis,
oui. Il y a un joueur qui s'appelle Thurman Thomas, qui est running back, comme O.J. Simpson, qui a pour habitude de mettre son casque aux 34 yards du terrain.
Ah oui, c'est un rituel.
C'est un rituel. Okay. Et là, comme toi, quand t'es en retard et que tu trouves pas tes clés chez toi, il retrouve pas son casque. Il retrouve pas son casque. Il cherche partout, dans tout le stade, le mec est en panique.
Ah merde.
Il rate le début du match. Ça vous dit la poisse de cette équipe.
C'est
absurde. Il rate le début du match. Il peut pas empêcher son équipe de perdre 37-24 contre les Redskins de Washington.
La défaite là est un peu plus nette.
Ce n'est pas fini.
C'est l'année
d'après, Super Bowl 93, Michael Jackson à la mi-temps du Super Bowl.
Le fameux,
bien sûr. Bon, là, ils perdent 52-17. Voilà.
Ils se prennent carrément, ils sont écrasés là. Ouais.
Contre l'équipe au nom le plus original du monde, les Cowboys de Dallas.
Les Cowboys de Dallas.
Donc, ils perdent 52-17. Et on se dit que là, c'est vraiment la fin d'un cycle pour cette équipe. Mais en fait, non, pas du tout. Car l'année d'après...
Cette chronique dure à peu près 2h40.
Même joueur joue encore, même joueur perd encore. Toujours face au Dallas, les Cowboys de Dallas. Cette fois-ci, 33, alors que Buffalo Bills menait à la mi-temps. Donc c'est vraiment la tristesse absolue.
Est-ce qu'ils ont fini par gagner après ça?
Et alors là, de l'aveu même de l'équipe, là, il y a quelque chose qui se casse quand même. 4 finales consécutives de perdues, 4 défaites. Le coach dit que c'est pas un beau parcours. Enfin, c'est un beau parcours, mais c'était pas un grand parcours parce qu'une finale, il faut la gagner. Et en même temps, si tu veux pas perdre de finale, faut pas en jouer, quoi. Et voilà, c'est une équipe dont la moitié de l'équipe a été récompensée dans le Hall of Fame. Plus que les 3 autres équipes qu'elles ont affrontées sur ces 4 années-là. Mark Levy a été entraîneur nommé au Hall of Fame. Ouais. Voilà. Et depuis, Mark Levy est parti. Il a 92 ans, il est encore vivant.
Il écrit des romans.
Il écrit des romans. Il écrit des ouvrages.
C'est vrai.
Il a passé un master à Harvard.
Il marche très bien.
Et comment écrit, on espère que c'est un peu mieux que l'autre Mark Levy quand même.
Le nôtre.
Bien sûr. Et pour c'est une équipe qui est encore très soudée, qui se voit beaucoup en dehors. Il y a un joueur qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et toute l'équipe, même ceux qui étaient à l'étranger, sont venus à l'enterrement. Il n'y a pas une seule personne qui manquait de cette équipe.
C'est beau.
Et ils ont pas regagné
depuis cette défaite en 94, les Buffalo Bills ne sont plus jamais
retourne au Super Bowl. Et pour la petite info, les Bills de Buffalo font partie des équipes de NFL qui n'ont jamais gagné le championnat.
C'est une triste football américain, donc c'est horrible.
Et voilà, c'était merci Olivier.
Merci Olivier.
Merci Olivier.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de O.J. Simpson.
Ah, on doit se revoir alors.
Exactement.
À bientôt.
Allez, je vais dormir.
Salut. Give me my money and stacks and lace my bitches with dime figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weed it open fire. Now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes. Open and shut like doors. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stretched out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You scream and go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Allez, on regarde le Super Bowl cette année.
Oh, vas-y.
Bah
allez, c'est dimanche en plus. Ouais, allez, on s'en fout. On la repose un jour.
Ah, je suis fatigué, je suis éreinté. Je finis sur les rotules en ce moment.
C'est l'enfer. Moi, je vous dis, on s'achète un Burger King, on le fout au congèle et à minuit, on le ressort.
Yam.
Mais ça, c'est ce que tu fais déjà.
Je préférerais faire un Domac.
Ok, bon, bah très bien. Je le regarderai tout seul. Allez, salut.